Bon réveil à tous, il est 6h.
Je ne vais pas vous dire que c'est un succès pour la défense, mais le plus important, c'est que les différents acteurs de ce procès sortent d'ici en se disant « justice a été rendue ».
La réaction de l'avocat de Nordal Lelandais, condamné hier soir à 20 ans pour le meurtre d'Arthur Noyer, il ne fera pas appel. La vaccination s'ouvre à tous les majeurs à partir de ce matin. Reportage à Douai, où les jeunes se bousculent. Situation de plus en plus tendue entre Israéliens et Palestiniens. Nouveaux échanges de tirs au cours de la nuit, on vous racontera. Et puis le château du gang des Lyonnais est à vendre. On s'y rendra à la fin de ce journal.
À suivre la page des sports. Et puis mon invité inattendu sera un marin inattendu qui se lance dans un défi un peu fou, traverser l'Atlantique. Mais alors vous verrez sur une embarcation étonnante, digne d'une bande dessinée d'Astérix. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez. C'est dans un quart d'heure, à 6h15. Bienvenue à vous tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La cour d'assises de Savoie a donc reconnu Nordal Lelandais coupable du meurtre d'Arthur Noyer et l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des 2/3, bien en deçà finalement des réquisitions de l'avocate générale qui avait requis 30 ans de prison. Les délibérations ont duré 7 heures et voici la réaction de l'avocat de Nordal Lelandais, Alain Jakubowicz.
Je ne vais pas vous dire que c'est un succès pour la défense, mais le plus important, c'est que les différents acteurs de ce procès, aussi bien la famille de Nordal Lelandais que Nordal Lelandais, que la famille Noyer, sortent d'ici en se disant « justice a été rendue ». On a jugé un homme, et il a été jugé comme un homme. Dans un procès normal, et le vœu pieux du président, ce vœu pieux, vous devez juger cet homme comme un homme à raison de ce pourquoi il est jugé, et pas autre chose. Bien voilà, c'est ce qui a été prononcé. On sait qui on a défendu. Bien sûr, on sait qu'il y a un nouveau procès qui nous attend. Enfin, on n'est pas imbécile, on n'est pas des candides. Alors, voilà, on voulait simplement qu'il soit jugé pour ce qu'il a fait, et uniquement ce qu'il a fait. Refermons ce dossier, ayons une pensée pour Arthur Noyer, ce jeune homme qui n'aurait pas dû mourir et qui malheureusement est mort.
Maître Alain Jakubowicz, avocat de Nordal Lelandais, qui donc ne fera pas appel.
Une première nuit à la prison des Baumettes de Marseille pour le jeune homme de 19 ans, soupçonné d'avoir tué le brigadier Éric Masson.
À l'issue de sa garde à vue, il a été mis en examen pour homicide involontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le suspect continue de nier les faits, bien qu'il ait été formellement identifié par un collègue du policier tué.
On en vient à l'actualité sanitaire et le temps est venu de la vaccination pour tous ceux qui le souhaitent.
Oui, dès ce matin, les plus de 18 ans peuvent se faire vacciner en fonction des rendez-vous. Restez libres du jour pour le lendemain. À Douai, au vaccinodrome de Gaillan Expo, des créneaux sont ouverts depuis le début de la semaine à tous les majeurs et il y a un certain engouement chez les jeunes. Reportage de Maximilien Carlier.
Voilà, c'est fait, première dose.
Quentin, 20 ans, vient tout juste de se faire piquer. Ce qu'il veut surtout, c'est retrouver une vie comme avant.
Ouais, je vais me faire vacciner contre mes grands-parents. Ça fait longtemps que je les ai pas vus en plus. Et juste sortir aussi, faire un peu ce qu'on veut, dessiner, des foot, sortir entre potes.
Assister à des concerts, voyager cet été, c'est pour ces raisons d'ailleurs que Théophile, 26 ans, a décidé de venir. Il a même changé d'opinion sur le vaccin.
Il y a encore quelques mois, vous m'auriez posé la question, je pense que ça aurait été plus négatif. Mais là, maintenant, je pense qu'à l'heure actuelle, les jeunes vont notamment se bouger.
Et c'est clairement visible ici. Ils arrivent par vagues, ils ont 20, 30 ans maximum. Il était temps pour Salia Grévin, chef du vaccinodrome de Douai.
Moi, ça fait depuis janvier que je dis non aux jeunes de mon territoire qui viennent tous les jours, depuis janvier, s'asseoir à 18h pour voir s'il reste des doses. C'est fini.
C'est fini, vaccination ouverte à tous ici. Et s'il y a un fort engouement chez les jeunes, selon plusieurs médecins, c'est parce qu'ils ont été trop longtemps frustrés de n'avoir pas pu être vaccinés. Douai, Maximilien Carlier, Europe 1.
Les jeunes qui reçoivent donc en ce moment leur première dose, reste à savoir comment ça va se passer cet été quand tout le monde aura quitté sa résidence principale pour se rendre sur son lieu de vacances. Anne Le Gall, le gouvernement travaille justement là-dessus en ce moment.
Exactement, car plusieurs questions se posent. D'abord, les Français pourront-ils réaliser leur deuxième dose sur leur lieu de vacances? Eh bien, non, ou alors de façon exceptionnelle, a indiqué hier le ministère de la Santé, qui demande aux Français d'adapter leurs vacances à leur rendez-vous de vaccination et non l'inverse, car il y a un risque de désorganisation du système. En clair, pendant l'été, la règle sera toujours de recevoir sa deuxième injection au même endroit que la première. Donc, si vous devez partir en vacances le 15 juillet en ayant reçu vos deux injections injection de Pfizer ou Moderna. Il faudra prendre rendez-vous pour la première le 3 juin au plus tard pour respecter le délai de 42 jours entre les deux doses. Avec AstraZeneca, c'est un peu plus souple car le délai entre les deux doses est de 12 semaines.
Mais Anne, le gouvernement parle quand même d'allouer davantage de doses aux régions touristiques, non ?
Oui, c'est exact, notamment pour les vaccinations avec le vaccin Janssen qui a l'avantage de ne nécessiter qu'une seule dose. Une expérimentation va d'ailleurs être menée dès ce week-end de l'Ascension en région Bretagne et Provence-Alpes-Côte d'Azur. 50 000 rendez-vous supplémentaires seront disponibles dans ces zones touristiques pour injecter ce vaccin unidose destiné aux plus de 55 ans. Et cela pourrait préfigurer ce qui se passera cet été, dit-on au ministère de la Santé. Enfin, pour fluidifier la vaccination chez les plus jeunes, y compris en amont des vacances, le vaccin à ARN messager Moderna sera disponible chez les pharmaciens et les médecins dès la semaine du 24 mai.
Merci Anne Le Gall pour ces précisions pour Europe 1 ce matin.
Et après un gros couac hier, le pass sanitaire, lui, est bien sur les rails.
Oui, il y a eu la fronde du Modem hein, et l'Assemblée nationale finalement a adopté le texte sur la sortie de l'état d'urgence et sur l'instauration de ce fameux pass sanitaire. L'exécutif néanmoins a dû demander une deuxième délibération cette nuit après le rejet du texte par ses alliés du centre pour obtenir le vote des députés. Député du Modem, le gouvernement a accepté d'écourter la période de transition pendant laquelle des restrictions des libertés seront encore à sa main du 2 juin à fin septembre plutôt que fin octobre.
La traque continue dans les Cévennes. 200 gendarmes tentent depuis hier soir de localiser l'homme qui a abattu son patron et l'un de ses collègues dans la Syrie où il travaillait.
Le tueur présumé a pris la fuite en forêt. Il pourrait donc être lourdement armé. Il est licencié dans un club de tir, d'où la présence sur place du GIGN. Et il a des tendances paranoïaques, dixit le procureur d'Alès, François Schneider, qu'on écoute.
La personne soupçonnée est un tireur sportif, donc il y avait une détention d'armes pour l'arme qui a été a priori utilisée pour la commission des faits. Il n'est pas connu pour des violences, il n'est pas connu pour des faits particuliers. Il était également en conflit avec son employeur dans la société pour des problèmes d'horaire de travail. C'est une personnalité très particulière, très procédurière et qui visiblement avait beaucoup de mal à admettre certains faits qu'il avait dénoncés. Il avait un comportement depuis quelques temps assez inquiétant, de type paranoïaque.
Le procureur d'Alès, François Schneider, au micro Europe 1 de Roman Hockey.
Venons-en à l'actualité à l'étranger et à cette nouvelle nuit de violence entre Israéliens et Palestiniens.
L'armée israélienne qui a mené une nouvelle série de frappes cette nuit sur la bande de Gaza, frappant les maisons de responsables du Hamas. Un Palestinien par ailleurs a été tué en Cisjordanie. Le djihad islamique qui, de son côté, a annoncé avoir tiré cette nuit 100 roquettes en direction d'Israël. Écoutez la réaction de Benjamin Netanyahou.
Le Hamas et le djihad islamique paieront pour cela. Ils paieront un prix très lourd. Voilà ce que dit le Premier ministre israélien.
Et une escalade dénoncée par Ned Price, conseiller politique américain et ancien officier du renseignement.
Nous ne voulons pas voir de provocations. Les provocations que nous avons vues ont amené au décès regrettable, très regrettable, d'Israéliens comme de Palestiniens. Israël a le droit de se défendre, mais en même temps, nous regrettons les informations sur des décès de civils et nous voulons que ça cesse.
Et sachez que l'ambassadeur d'Israël en France, Daniel Saada, sera l'invité de Sonia Mabrouk tout à l'heure à 8h15 sur Europe 1. Retour en France à présent avec cette question. Va-t-on manquer de riz ?
Oui, alors c'est un cri d'alarme imposé ce matin sur Europe 1 par des producteurs de Camargue. La production française cette année sera à son plus beau niveau depuis 30 ans. En cause, les normes sanitaires de plus en plus contraignantes qui découragent les producteurs. Explication signée Maud Descamps.
Des 30 000 hectares de rizières camarguaises d'après-guerre, il n'en reste qu'un tiers, cultivé par 170 riziculteurs. Cédric Santucci est l'un d'entre eux. Cette année, il cultive à regret du blé dur.
Depuis plusieurs années, on fait face à un retrait de produits phytosanitaires en France. Aujourd'hui, c'est très compliqué de désherber correctement nos rizières. Le fait est que si les parcelles sont envahies de mauvaises herbes, les rendements chutent de l'ordre de 3-4 tonnes. La culture du riz n'est plus rentable.
L'an dernier, 80 000 tonnes de riz camarguais ont été produites. Cette année, ce sera 30% de moins. Bertrand Mazel, président du syndicat des riziculteurs français, s'inquiète aussi de l'impact sur le paysage.
On était habitué à avoir un paysage où il y avait bien sûr de l'eau en permanence avec toute la faune et la flore qui s'y attachent. Aujourd'hui, malheureusement, on voit plutôt des champs qui sont plastifiés aussi parce qu'on est obligé d'utiliser ces méthodes-là pour avoir des melons de plus en plus tôt.
Contacté par Europe 1, le ministère de l'Agriculture assure qu'il ne laissera pas la filière du riz français disparaître. 3 dérogations de produits phytosanitaires sont actuellement à l'étude.
Les précisions de Maud Descamps pour Europe 1.
Et nous partons maintenant pour Fléchère. Le château du Gang des Lyonnais est à vendre. La petite annonce est parue récemment.
Oui, le Gang des Lyonnais, c'est ce fameux gang des années 70. Et le château, c'est celui d'un chef-d'œuvre de la Renaissance, situé à 50 km de Lyon. C'est un château de plus de 400 ans où les gangsters faisaient des fêtes mémorables, que nous raconte Jean-Luc Boujon.
Le château de Fléchère est un superbe édifice construit en 1605 sous Henri IV. C'est un joyau de la Renaissance composé d'une trentaine de pièces ornées de peintures d'époque, explique son propriétaire Marc Simonet Langlard.
Alors ici, nous sommes dans la salle représentant la figure de la fortune avec sa corne d'abondance, d'où sortent des pièces d'or. Et c'est un décor tout à fait étonnant qui n'a pas d'équivalent.
Plus récemment, dans les années 70, le château a été la propriété d'un des chefs du gang des Lyonnais, la célèbre bande de braqueurs qui sévissait à l'époque.
Il y a organisé quelques fêtes très sulfureuses avec des prostituées.
Donc des orgies qui ont été organisées là au moment du gang des Lyonnais.
Oui, tout à fait. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que ces associés se sont dit qu'il était en train de risquer de les compromettre eux-mêmes.
Aujourd'hui, le château complètement restauré est à vendre, prix 12 millions d'euros. Mais l'argent n'est pas le seul critère.
On pense trouver un acquéreur qui ait le goût de ce genre de lieu et qui ait envie de le faire vivre en respectant le bâtiment.
D'ailleurs, plusieurs offres de promoteurs ainsi qu'une autre émanant d'un investisseur saoudien ont déjà été refusées. Farins, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Voilà pour ce récit qui conclut le journal de Lénaïque Monnier sur Europe 1. Il est 6h12.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Axel May pour le journal des sports et à la une, la colère des organisateurs d'événements sportifs en extérieur face au calendrier du déconfinement.
Oui, ils ont lancé il y a 2 mois un collectif, eux qui revendiquent 14 000 événements outdoor, comme on dit, chaque année pour 5 millions de participants amateurs. Et ils estiment être les grands oubliés du déconfinement, faute de jauge suffisante. Témoignage de Michel Sorin, organisateur notamment du Marathon du Beaujolais.
Alors que dès le 9 juin, les salons réouvrent avec des jauges de 5 000, les salles de sport vont réouvrir, etc. Nous, on est en extérieur et on a une jauge qui va être limitée à 500 jusqu'au 30 juin. Et au-delà du 30 juin, on est encore limité à 2500. On nous martèle depuis des mois que la contamination se fait en intérieur. Nous, on est en extérieur. On ne comprend pas pourquoi on est, entre guillemets, plus maltraité que d'autres.
Alors, on entend la colère de cet organisateur de marathon, mais le public va malgré tout pouvoir commencer à revenir dans les manifestations sportives.
Oui, et sachez qu'à Roland-Garros, la billetterie pour les cours annexes, et seulement les cours annexes, ouvre à 10h aujourd'hui. File d'attente à prévoir sur Internet.
En football, le PSG est à Montpellier.
Première demi-finale de la Coupe de France, c'est ce soir à 21h. Ailleurs en Europe, le Sporting, sacré champion du Portugal. Et en Angleterre, c'est Manchester City qui rafle le titre. City, dont le défenseur français Aymeric Laporte vient d'être naturalisé espagnol. Et il devrait du coup disputer l'Euro sous les couleurs de la Roja.
Et puis le prochain Dakar sera 100% saoudien pour la 3e année d'affilée.
Le parcours dans ses grandes lignes a été dévoilé hier soir et beaucoup de sable au programme dans le grand sud de saoudien, triple vainqueur du rallye Dakar, Mathieu Baumel, et le copilote du Qatarien Nasser Al Attiyah.
Vraiment, la bonne nouvelle, c'est qu'on va descendre un peu plus au sud, dans les petits quarters, près des Émirats, avec vraiment des grosses dunes et des journées qui promettent d'être longues et difficiles dans les dunes, mais c'est une surface qui nous plaît beaucoup avec Nasser, donc je pense que ça devrait être intéressant.
L'Empty Quarter, c'est le grand sud saoudien. Départ du 44e Dakar, on a un peu le temps, c'est le 2 janvier.
On va terminer avec un anniversaire qui va rappeler des souvenirs à certains de ceux qui nous écoutent. Panini a 60 ans.
Oui, et avec un album du Tour de France qui est en train d'arriver dans les kiosques. Peut-être que vous aurez Julien Alaphilippe, l'autocollant, avec son beau maillot de champion du monde, même s'il faut avoir la chance de l'obtenir. Bon, alors, il y a une légende urbaine. On pense que c'est plus compliqué d'avoir certains autocollants. Isabelle Fillon, directrice marketing de Panini France, dit « Non, non, c'est pas vrai ».
C'est rigolo parce que ça reste vraiment ancré dans l'esprit hein, collectif d'ailleurs, je dirais. En fait, tous nos stickers sont vraiment édités en quantité totalement égale. C'est vraiment lié en plus à notre système d'impression. En fait, on imprime tous nos stickers sur des grandes planches d'impression par typologie. On va dire, il y a des planches plutôt papier, après des planches avec les finitions un peu plus qualitatives, les brillants, les argentés, etc., etc. Ce qui fait la rareté en général, c'est que quand on est français et qu'on arrive à avoir un ou deux ou trois stickers d'Alaphilippe, on va plutôt avoir tendance à les conserver pour les coller sur un autre support qu'à les remettre dans le circuit d'échange. En fait, c'est ça qui mécaniquement crée un peu la rareté.
Voilà, Isabelle Fillon de Panini.
On avait toujours les mêmes, il en manquait toujours un ou deux, c'est pénible. C'est vrai qu'il en manque toujours un ou deux. Les vignettes Panini, c'est indémodable, hein, décidément. Merci à vous, Axel May, pour les sports. Il est 6h15.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Europe 1. Et c'est un autre événement sportif qui débute aujourd'hui. Ils sont 18 binômes à prendre le départ depuis Concarneau dans le Finistère, direction Saint-Barth aux Antilles pour une transat en double, traverser l'Atlantique. Et bien mon invité inattendu ce matin prépare une toute autre traversée de l'océan dans une embarcation plus que surprenante. Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Arnaud Huvelin et avec le collectif Batar, qui veut dire bateau en islandais, on est en train de construire le drakkar le plus rapide du monde pour traverser l'Atlantique.
Le drakkar le plus rapide du monde pour traverser l'Atlantique, c'est le bateau des Vikings, le drakkar. Avec une bande d'ingénieurs, vous avez décidé donc de ressusciter ce type de bateau. Vous allez nous raconter ça dans un instant. À tout de suite.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
Il est 6h18 et mon invité inattendu ce matin prépare un périple assez surprenant. Rallier New York en drakkar, le bateau en bois des Vikings. Arnaud Huvelin, vous avez donc ce projet avec un groupe d'ingénieurs autour de vous, fabriquer le drakkar le plus rapide du monde, me disiez-vous, pour traverser l'Atlantique. D'où vous est venue cette idée ?
Alors, il n'y a pas que des ingénieurs déjà hein, dans le groupe. L'aventure, elle est ouverte à tout le monde. Elle nous est venue, en fait, au début par hasard et après par conviction de toutes les valeurs que transportent les Vikings. On s'est très vite rendu compte que c'est les valeurs qu'on transpirait aussi, à savoir tout le monde est le bienvenu et il n'y a pas besoin de diplôme pour faire des choses. Il suffit juste de se lancer et de les faire. Et puis après, il y a aussi l'exploration, l'ingénierie, tout ce côté-là autour des Vikings qui nous a un peu passionnés et on s'est dit, ben, fabriquer des bateaux et partir en expédition avec, ça serait quand même pas mal.
Et vous aviez une passion particulière pour ce monde-là, pour le monde des Vikings ?
Il y en avait quelques-uns à l'origine du collectif, ouais, qui étaient fascinés par les Vikings. Et petit à petit, ça a drainé de plus en plus de personnes et c'est comme ça que le collectif est né.
Et vous faisiez déjà du bateau, de la voile ? Je sais pas, vous avez un côté breton, celte ou pas du tout ?
Alors nous, on est basé à Toulouse.
Ah oui, il n'y a pas la mer.
Il n'y a pas la mer à Toulouse, il n'y a pas l'océan non plus. Non, moi je ne faisais pas particulièrement de bateau. Nous, on parle d'aventure. Pour nous, l'aventure, c'est partir en mer, partir en expédition, mais c'est aussi construire. Et c'est vraiment le tout qui nous intéresse. Il y en a dans le collectif qui étaient marins, mais pas tous. Justement, c'est ce que je disais au début, tout le monde peut venir et faire ses preuves.
Alors ça fait 10 ans que vous avez commencé à travailler sur ces drakkars, vous en avez déjà construit ?
On en a déjà construit deux, ouais. Un petit de 6 mètres, qui était le premier, le galop d'essai. Ça a été très long. Et on en a construit un deuxième de 12 mètres, qui est un peu plus le drakkar de la fin d'adolescence, on va dire, début de maturité, avec lequel on est déjà parti pendant un mois naviguer en mer du Nord en 2020.
D'accord. Donc, au pays des Vikings. Redites-nous, peut-être pour qu'on visualise bien la particularité de ce type de bateau, ce drakkar.
Alors, les bateaux Vikings, parce que le terme drakkar, c'est un terme qui n'existe pas. Il a été inventé plus pour de l'esthétisme, mais c'est un faux terme. On dit long skip. C'est ça le vrai terme officiel. Les bateaux Vikings, c'est des bateaux qui sont totalement, tout en bois, avec des planches à clin, ils ont la particularité d'être symétriques à l'avant et à l'arrière et ils ont cette forme si particulière qu'on connaît notamment dans des bandes dessinées comme Astérix et dans beaucoup de livres d'histoire et c'est des bateaux qui se naviguent à voile et avec des voiles carrées, donc ce qui n'existe plus aujourd'hui et à l'époque c'était des bateaux, c'était le fleuron de l'ingénierie en l'an 1000, aujourd'hui on sait faire d'autres choses.
Et on peut traverser l'Atlantique avec ?
Eh bien alors oui c'est sûr. Déjà parce que il y a le plus grand drakkar du monde qui a traversé l'Atlantique il y a quelques années, donc à notre époque, et en l'an 1000, ça a déjà été prouvé. ce sont les Vikings qui ont traversé en premier l'Atlantique. Et donc ça, c'est maintenant, c'est prouvé. J'espère que c'est enseigné d'ailleurs dans les livres d'histoire. Donc oui, c'est possible, aucun souci.
Et donc, c'est votre prochain objectif, construire un drakkar beaucoup plus grand, 28 mètres. Vous dites que ce sera le plus rapide du monde. Ça veut dire que vous allez adapter le concept du drakkar avec des matériaux contemporains, j'imagine ?
C'est ça. En fait, nous, on considère que si les Vikings, ils avaient continué à construire aujourd'hui des bateaux en bois, ils utiliseraient des matériaux modernes et des méthodes modernes. Il y a deux caractéristiques sur nos drakkars qui font qu'on est sûr et certain que ce sera le plus rapide du monde. La première, c'est qu'on utilise une technologie de bois qui s'appelle le lamellé-collé, ce qui fait que nos bateaux sont plus légers. Et la deuxième, c'est qu'on utilise une autre technologie qui s'appelle l'époxy pour étanchéifier le bateau, qui a un meilleur glissement sur l'eau que ce qu'utilisent traditionnellement les Vikings. Donc on est plus léger et on glisse mieux sur l'eau. On est sûr et certain que ce drakkar-là sera le plus rapide du monde. Le record à battre, c'est 18 nœuds pour nous.
Bon, très bien. Vous démarrez la construction de ce navire quand, pour une traversée, dans combien de temps, quelle échéance ?
La construction démarre en septembre à Toulouse. J'invite personnellement toutes les personnes qui veulent rejoindre et participer à la construction de ce projet à cliquer sur batar.fr, batar.fr. Tout le monde peut venir participer à la construction. Elle va durer à peu près un an et demi. Et la traversée se fera au printemps 2024, le temps de former l'équipage et d'avoir les meilleures conditions météorologiques.
Vous partirez vous-même ? Vous serez
vous
serez du voyage ?
Ah, ouais.
Ah oui,
c'est sûr et certain. Toulouse, New York.
Ils en disent quoi, vos proches ? Ça les inquiète pas, cette traversée sur un bateau viking ?
Je pense que ma mère n'a pas encore réalisé. Mon petit frère fait partie du projet. Il est lui-même marin et il fera tout pour venir aussi. Ma copine est très contente pour moi et elle espère que je vais revenir en vie.
On vous le souhaite quand même. En tout cas, il a déjà un nom, ce bateau, ce drakkar. Il s'appelle le Batar Orkan, ce qui signifie ouragan en islandais. Exactement. Si je ne me trompe pas. Merci à vous d'être venu nous présenter ce projet un peu fou ce matin, Arnaud Yvelin, et bonne chance.
Merci beaucoup, merci de nous avoir invités.
Europe 1, Sébastien Krebs.
6h24 sur Europe 1, la vaccination pour tous ceux qui le souhaitent, ça commence aujourd'hui, tous les plus de 18 ans peuvent se faire vacciner en prenant rendez-vous du jour pour le lendemain. Après le couac hier à l'Assemblée nationale et la fronde du Modem, les députés ont finalement adopté cette nuit le texte sur la sortie de l'état d'urgence et l'instauration d'un pass sanitaire. Et puis la cour d'assises de Savoie a reconnu Nordal-Lelandais coupable du meurtre d'Arthur Noyer et l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle.
Europe 1.
Allez, nous ouvrons la partition d'Omblin Roche, l'histoire derrière la musique. Chaque matin avec vous, Omblin. Et votre histoire commence aujourd'hui dans un petit château dans le village d'Hérouville, à une demi-heure au nord de Paris. Ce château a été, des années 60 jusqu'aux années 80, l'un des studios d'enregistrement les plus prisés au monde.
On a croisé dans ses couloirs les Pink Floyd. David Bowie et Iggy Pop y ont rencontré leur China Girl. Marvin Gaye et Elton John ont joué sur le piano à l'étage. Jane Fonda a planté l'arbre près de la piscine et les Bee Gees ont enregistré Stayin' Alive dans l'escalier.
C'est parce qu'il avait été impressionné par l'album Honky Château d'Elton John que Maurice Gibb convainc ses frères de se rendre en France.
Maurice Gibb joue de la basse et prend soin des arrangements. Robin, avec son falsetto, pousse sa voix le plus haut possible. Et Barry, au look de surfeur, assure les parties guitare. Il s'installe au château d'Hérouville au début de l'année 1977.
Ici, les Bee Gees ont quand même hésité avant de venir. C'était pour une question de tarif.
Oui, un tarif étonnamment bas, ce à quoi leur a répondu le maître des lieux, le musicien et producteur Laurent Thibault. On peut augmenter le prix sans problème si vous le souhaitez.
«
À Hérouville, les Bee Gees doivent travailler sur 5 chansons.
Elles sont destinées à figurer sur la bande originale d'un film qui est en train de se tourner à New York, Saturday Night Fever. Les Bee Gees sont accompagnés par leur producteur, Albie Gallutin, un fou du détail. Il n'hésite pas à faire enregistrer les voix des frères Gibb une dizaine de fois et dans le grand escalier aussi, donc pour son acoustique et sa réverbération. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share.
L'acoustique de l'escalier. Si d'une manière générale tout se passe bien, hein, pendant leur résidence dans le Val d'Oise, les Bee Gees doivent faire face à des imprévus et des déconvenus.
Avec d'abord les cordes de l'orchestre de Paris, la collaboration ne fonctionne pas du tout. C'est Laurent Thibault qui a l'idée d'appeler à la rescousse l'orchestre de musique contemporaine de Rouen, tout heureux de s'essayer au disco.
Et puis le batteur tombe malade.
Les Bee Gees s'en sortent grâce à un tour de passe-passe. Ils utilisent la technique du looping, le même enregistrement de batterie pour toutes les chansons. Maurice Gibb confiera plus tard au journal Libération. Personne ne s'en est rendu compte, sauf les professionnels. Les 5 titres enregistrés à Hérouville sont tous devenus des succès mondiaux. La bande originale de Saturday Night Fever reste aujourd'hui l'une des plus grosses ventes d'albums de tous les temps.
Woman, enregistré par les Bee Gees au château d'Hérouville en 1977.
Oui, c'est la seule parenthèse disco dans ce haut lieu du rock. L'histoire de ce mythique studio d'enregistrement créé par le compositeur Michel Magne est racontée par Laurent Jaoui dans un livre qui sort aujourd'hui aux éditions Castor Astral, Hérouville, le château hanté du rock.
La partition, signée Amblin Roche sur Europe 1. Et Laurent Cabrol pour la météo.
Tout est dit pour la partition. Maintenant, je vais vous donner la mienne de partition. Elle est en trois volets, hein, trois octaves. Sur le littoral atlantique, de la pluie et des orages sur des régions comme la Bretagne, la région nantaise, Poitou-Charentes-Vendée, sur l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées, le Béarn. Ce sont des régions où la perturbation va débarquer, si je puis dire, à la rive de l'Atlantique. Elle va faire ses premiers pas dans cette partie de la France. Normandie, Picardie, région parisienne, Berry, Limousin, Auvergne, Languedoc-Roussillon et Bourgogne. Ce sera un régime d'averses pratiquement toute la journée, mais des averses qui sont parfois nombreuses, parfois beaucoup moins. Enfin, c'est très variable. En Lorraine-Alsace, Franche-Comté, dans les Alpes et en région lyonnaise, de belles éclaircies et du soleil sur la Provence et la Côte d'Azur. Les températures maximales entre 16 et 19 degrés. Aujourd'hui, il en fera 18 à Paris, 19 à Toulouse et 17 à Lyon.
Merci Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Soyez les bienvenus sur Europe 1 à votre réveil. Tout de suite, toute la formation de cette journée. Bonjour François Geffrier.
Bonjour.
Il est 6h30.
Il est impératif de donner des moyens aux forces de sécurité. Mais il faut que la justice
suivre.
Jean Castex affiche sa fermeté sur la sécurité et la justice. Le Premier ministre annonce une plus grande sévérité dans les cas de refus d'obtempérer. La réouverture des magasins non essentiels se prépare. Nous verrons que la liste des préparatifs est longue quand on est fermé depuis 3 mois. Et puis après 44 ans de disette pour la France à l'Eurovision, la chanson « Voilà » de Barbara Pravi va-t-elle nous faire gagner ? Elle est favorite pour le moment.
De la musique, mais aussi du cinéma sur Europe 1. Le retour au cinéma dans une semaine, maintenant réouverture des salles, avec à l'affiche un film Europe 1, mercredi prochain. Le premier film comme réalisateur de l'acteur Viggo Mortensen qui vient nous présenter Falling, film très personnel, vous verrez, sur la filiation et sur la fin de vie.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La pédagogie est aussi un art de la répétition. Jean Castex a donc doublé la mise. Hier, interview aux 20h de France 2. Après un long entretien au journal Le Parisien le matin même, des modalités du déconfinement aux questions régaliennes, le Premier ministre s'affiche en première ligne dans le rôle traditionnel de paratonnerre de sa fonction. Hélène Terzian.
Le ton est martial, déterminé. Après l'hommage rendu aux policiers tués à Avignon, Jean Castex affiche la fermeté du gouvernement pour protéger les forces de l'ordre.
Il est impératif de donner des moyens à nos forces de sécurité. Mais il faut que la justice suive. On en arrive à ces situations parce que pour l'essentiel, depuis 50 ans, l'État ne s'est pas assez occupé du service public de la justice.
Le Premier ministre monte au front sur la sécurité. Il assume aussi les choix de l'exécutif dans la gestion de la crise sanitaire et balaye le reproche de ne pas avoir confiné fin janvier.
Le choix qui a été le nôtre a été le bon. Il y a effectivement encore beaucoup, trop de patients en réanimation, mais la tendance à la baisse est claire.
Jean Castex, le gestionnaire et l'homme politique, hors de question d'admettre un camouflet après l'accord avorté entre LREM et la liste LR en PACA.
C'est Monsieur Muselier lui-même qui nous a tendu la main. Je lui ai répondu en ma qualité de chef de la majorité parlementaire. J'assume complètement, d'autant que sur cette région plane la menace du Rassemblement national.
Les discussions continuent, dit-il, alors que les derniers sondages donnent la liste du RN gagnante dans la région.
Hélène Terzian du service politique d'Europe 1.
Et Jean Castex, dans cette interview, a encore rappelé que 10 000 postes de policiers et gendarmes auront été créés au cours du quinquennat. Mais sur le terrain, ces renforts ne sont pas toujours perceptibles.
Exemple frappant ce matin, c'est à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, où il faut faire appel à une société privée de sécurité pour protéger les 1500 habitants d'une résidence HLM. Cela fait 4 mois que les agents sont là face à un climat d'insécurité latent, précisément dans les parkings souterrains. Reportage Europe 1 de Jean-Jacques Herry.
Dans l'immense parking souterrain, les box, plus de 300 en tout, se succèdent sur 2 niveaux. Jusque récemment, les habitants y descendaient la boule au ventre.
J'étais obligé de me lever parfois à 5h du matin pour accompagner ma petite sœur chercher sa voiture.
La peur de faire une mauvaise rencontre dans un lieu décrit comme la cour des miracles.
Il y avait de la prostitution, des drogués.
Traîner ici, fumer ici, vendre ici. Et il y en a qui vendent même de gasoil ici. De gasoil, des bidons de gasoil.
Il y avait des gens qui se faisaient agresser. Ancienne gardienne, il y a 2 ou 3 ans de ça, s'est fait agresser par des toxicomanes.
Régulièrement, les box étaient fracturés, cambriolés, dans l'indifférence générale, regrettent les habitants. Mais c'est vrai, disent-ils, il y a du mieux depuis l'arrivée des agents de sécurité il y a 4 mois.
Il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter là, que ce soit privé ou public, peu importe, à partir du moment où le travail est fait.
Mais cette solution ne peut pas être pérenne, explique la maire de la ville, Karine Franclet. C'est trop cher pour l'OPH, le bailleur social.
30 000 euros par mois, qu'on ne peut pas supporter un tel coût. Et ce n'est pas normal, encore une fois, qu'on soit obligé d'avoir recours à des sociétés privées pour rétablir un ordre public. On a vraiment besoin d'avoir plus de moyens au niveau de l'État.
En parallèle, des travaux ont lieu pour sécuriser les portes d'accès au parking et rendre beaucoup plus difficiles les intrusions.
Jean-Jacques Herry à Aubervilliers.
Revenons à la politique avec cet acte de rébellion des députés Modem. Ils se trouvaient insuffisamment pris en compte par La République En Marche. Eh bien, ils ont fait basculer un vote hier à l'Assemblée contre le pass sanitaire.
Oui, le gouvernement a dû faire des concessions et demander une deuxième délibération pour que l'article soit adopté à 1h du matin cette nuit. Un procédé décrié par les autres formations politiques à l'image du coordinateur de la France Insoumise, Adrien Quatennens.
C'est un projet de loi circulaire que nous avons sous nos yeux, c'est-à-dire une fois qu'on est allé au bout, on recommence au début, jusqu'à plus soif. Tout à l'heure, le gouvernement a été battu, ça a été dit, y compris par des membres de la majorité qui l'ont mis en minorité. Et lorsque les oppositions sont battues, on n'en remet pas la délibération un nouveau vote. Alors nous sommes allés au bout de l'examen de ce texte. Pourquoi la séance ne serait-elle pas levée à 7h, puisque tout à l'heure, nous avons voté sur cet article. Et je crois que quand nous l'avons fait, nous avions bien compris les enjeux.
Adrien Quatennens, cette nuit à l'Assemblée.
Il est 6h35, à une semaine de la réouverture des commerces. Les équipes s'affairent en coulisses pour que tout soit prêt pour accueillir les clients.
Oui, mais imaginez, il y a 3 mois, c'était l'hiver. Voilà qu'on doit sortir les collections d'été et il faut remobiliser les équipes, comme dans ce magasin de prêt-à-porter où s'est rendu Maude Descamps dans le quartier des Halles à Paris.
Déballer, déplier, mettre sur les cintres, des automatismes qui reviennent vite pour l'équipe de Jenny. Ce matin, ce sont 3000 vêtements de la nouvelle collection à mettre en rayon.
Ce qui peut être le plus difficile, c'est que ça fait 3 mois que les équipes sont chez elles, en ayant coupé du quotidien, du rythme, etc. Et donc aujourd'hui, il est important de redynamiser tout le monde. Le réveil, il faut se remettre sur un cadre de planning. Donc ça, c'est du changement après 3 mois.
Derrière le comptoir, Valentin, responsable du magasin, sourit, heureux de laisser derrière lui cette longue période d'inactivité.
Au revoir les collègues, ça fait du bien. On a la chance d'avoir une bonne équipe, on est très proche de nos clients, donc c'est vrai que ça nous manque un peu.
Alexis lui a déjà retrouvé la motivation et s'est lancé un défi, refaire toute la vitrine.
Qu'elle soit 100% correctement effectuée, quoi. Qu'ils sont aussi de fierté d'avoir réalisé la vitrine qui pourra forcément nous faire du chiffre et qui nous permettra à la clientèle de rentrer en magasin.
L'équipe n'attend plus que les derniers détails des mesures sanitaires pour être prête mercredi prochain pour accueillir les clients.
Maude Descamps du service économie d'Europe 1. À la une également, cette chasse à l'homme dans le Gard. Un suspect est en fuite après avoir tué par balle hier son patron et un employé de la Syrie dans laquelle il travaille. Il a des tendances paranoïaques d'après le procureur, inscrit dans un club de tir de la région et connu dans son village, un village calfeutré depuis hier. Personne ne peut entrer ni sortir. 200 gendarmes participent à cette chasse. Romain Noquet a pu joindre Olivier, voisin de la Syrie, où a eu lieu le drame et où travaillait le fugitif.
C'est pas quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de nerveux, impulsif. Voilà. Quand il a été embauché à la mairie, ça se passait pas très bien. Un jeune un peu, je sais pas bien dans ses baskets. Voilà. Donc le patron avait décidé d'embaucher ce jeune parce qu'il trouve pas beaucoup de main d'œuvre ici. Il prenait un peu les jeunes qui restaient là, quoi. Et je sais pas ce qui s'est passé. En fait, ça a pas bien fonctionné entre eux et c'est indifférent avec le patron, voilà. Et il y a un autre jeune homme du village là qui travaillait aussi avec. Il lui dit mais tu vas pas me tuer, quoi. Et puis il est parti en courant. C'est très boisé, c'est très vallonné. En plus là, alors on a des forêts de chênes verts, c'est très dense. Quelqu'un sous un chêne vert. C'est impossible de le voir. Lui, apparemment, il était aussi un peu du secteur. Donc, s'il connaît bien les montagnes, parce que nous, ça nous fait peur de dormir là, sachant que quelqu'un rôde autour de nous avec une arme. J'espère qu'il n'y aura pas plus de drames que ça, parce que c'est bon, 2, ça suffit largement.
On entend l'inquiétude d'Olivier au micro européen de Romain Oquet.
De la musique à 6h38 sur Europe 1, ça fait 44 ans. 44 ans que la France n'a pas gagné l'Eurovision, mais chaque année on essaye d'y croire. Est-ce qu'on a raison d'y croire cette année ?
Barbara Pravi, qui va nous représenter dans 10 jours, est actuellement numéro 1 dans les prévisions des bookmakers. Angèle Châtelier.
À 28 ans, Barbara Pravi est pour l'instant la grande favorite de la 65e édition de l'Eurovision. Avec sa chanson « Voilà », elle aurait 18% de chances de gagner, selon les bookmakers.
Ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps.
Pour Fabien Randan, spécialiste de l'Eurovision, c'est son côté Edith Piaf, son allure de parisienne ou encore sa sincérité qui font la différence.
Elle dégage quelque chose de très frais, de très spontané, authentique. Elle est autrice, compositrice, interprète, donc elle défend sa chanson. Sa prestation dans la sélection française était une très jolie prestation avec des jeux de lumière. Ça soulignait l'émotion de la chanson et ça c'était plutôt un bon point, notamment auprès d'un public qui n'est pas forcément francophone, qui à travers cette émotion là peut comprendre de quoi il retourne.
Pour autant, il appelle à la prudence. Pour l'heure, dans les classements, Barbara Pravi arrive devant Destiny, qui concourt sous les couleurs de Malte, mais avec seulement 1 point d'avance dans les sondages.
Ça tourne un peu en boucle, là, on va l'entendre d'ici au 22 mai, la date de la finale de l'Eurovision, samedi 22 mai.
Samedi 22 mai, la finale de l'Eurovision, on va y croire, c'était quoi Marie-Myriam, la dernière gagnante,
oui,
il y a 44 ans, l'Eurovision, donc samedi dans 10 jours. C'était le journal de François Geffrier sur Europe 1, 7h-20.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
Et après la musique, on parle de cinéma ce matin sur Europe 1. Et qu'est-ce que ça fait du bien de parler de cinéma dans une semaine précisément. Mercredi prochain, les salles rouvrent avec à l'affiche un film Europe 1. Bonjour Viggo Mortensen.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1 et merci de vous exprimer en français. Nos auditeurs vous connaissent pour de grands films. Il y a eu Le Seigneur des Anneaux, vous étiez Aragorn, Green Book plus récemment, qui vous a valu une nomination aux Oscars. Aujourd'hui, vous signez votre premier film comme réalisateur, Falling, qui aurait dû être à Cannes l'année dernière, qui aurait dû sortir début novembre. Quel parcours du combattant et quel soulagement, j'imagine, de voir enfin en salle ce film la semaine prochaine. Ça a été dur, ça a été long.
Bon, c'était frustrant pour moi et pour des autres. Et ben, c'est difficile. Quand j'avais fini avec le montage, j'étais très content. Et puis, on a été invité à Sundance et à Cannes. Et j'ai pensé que ça allait être merveilleux de présenter Lance Henriksen sur le tapis rouge de Cannes. Mais on n'a pas pu y aller et on a dû attendre. Pendant l'été, et puis on est allé au Festival Saint-Sébastien, Toronto, et on était juste sur le point de lancer le film en France et on n'a pas pu.
Et tout s'est refermé quelques jours avant, puisque le film devait sortir le 4 novembre en France. Les cinémas se sont refermés juste avant. Alors, il garde ce film, le label Cannes, même si vous n'avez pas pu présenter le film là-bas. C'est un très beau signe de reconnaissance pour un premier film en tant que réalisateur.
Certainement, c'est incroyable. Même si c'était mon 20e film, c'est toujours un grand honneur d'être invité à Cannes. Mais c'est comme ça.
C'était un projet de longue date pour vous, après de très nombreux films comme acteur, de passer derrière la caméra?
Oui, j'ai essayé la première fois il y a 25 ans avec un autre scénario et j'écris plusieurs scénarios et j'ai essayé plusieurs fois. Mais c'était en 2015 que j'ai commencé à écrire le scénario pour Falling. Et puis après la mort de ma mère, elle était l'inspiration pour le film, tel que je me souviens d'elle. Et j'ai commencé à écrire cette histoire et j'ai pensé, ça peut être un bon film aussi. Mais ça a pris 4 ans. pour trouver l'argent pour réaliser le film. Ça a été difficile, mais c'est toujours un peu comme ça avec le cinéma indépendant.
Un parcours du combattant pour financer le film, pour le tourner, et aujourd'hui, on le comprend, pour le sortir en salle.
Ouais.
Falling, c'est donc le titre de votre film. Qu'est-ce que vous aviez envie de raconter?
Je voulais parler de la communication, de l'empathie, des liens brisés dans une famille.
Alors, c'est l'histoire d'un fils que vous interprétez, qui tente de se rapprocher de son père, qui est âgé, qui vit seul dans une grande ferme du Midwest, et donc ce fils va le faire venir vivre avec lui en Californie, avec des liens qui sont parfois difficiles, complexes, qui sont tendus entre les deux.
Et il souffre aussi de la démence, le vieux, mon père, dans le film, le rôle de Lance Henriksen. J'ai vécu le processus de la démence de très près avec mes parents, mon beau-père, mes grands-parents et d'autres membres de notre famille. L'expérience de mon père avec cette maladie et l'évolution conséquente de ma relation avec lui m'ont aidé à créer le personnage de Willis.
Tu m'as demandé de venir te chercher. Tu t'en souviens?
Je n'aurais jamais demandé ça.
Papa, tu sais que maman n'est pas là.
Tu as oublié parce que tu es trop vieux?
Il savait que tu étais pédé dans l'armée.
Je ne le savais pas vraiment moi-même.
Et c'est vrai que sur ces sujets de l'âge, de la vieillesse, d'Alzheimer, même si le mot n'est jamais prononcé, c'est un film qui est très ancré dans notre époque.
Oui, il y a plusieurs films qui ont parlé de ça, mais il me manquait toujours quelque chose dans ces films. Ça n'a pas représenté mon expérience avec cette maladie. On montre toujours dans ces films un personnage dans la confusion permanente, je trouve. Et ce n'est pas le cas, à mon avis. Ceux qui vivent dans la confusion, ce sont les observateurs, ceux qui soignent des gens qui ont cette maladie. Et je voulais faire une autre chose. À mon avis, il y a des films où c'est le rôle d'une personne avec la démence, c'est une espèce de performance. Et ce que Lance Henriksen nous donne dans Falling, c'est la vie même. C'est plus fort, c'est plus profond.
Et vous montrez que malgré la maladie, malgré la démence, comme vous dites, il reste des souvenirs et des souvenirs
communs. Les souvenirs sont très importants dans ce film. Je voulais explorer un peu la mémoire, les souvenirs. Et je pense que, en fin de compte, les liens brisés d'affection familiale qui les unissaient, le père et le fils, autrefois, et que l'histoire visite à travers leurs divers souvenirs subjectifs, les aident à surmonter une partie de la douleur qu'ils se sont causés entre eux.
Et vous faites des allers-retours dans le film entre l'époque de l'enfance de votre personnage et l'époque actuelle. Il y a beaucoup de familles qui se retrouvent dans ces situations. Vous dites que vous-même y avez été confronté. Quels sont les messages que vous vouliez faire passer à ces familles?
Il faut faire attention à eux. Il faut être flexible, mais spécialement avec une personne qui a cette maladie. C'est important de rester flexible, de s'adapter à eux, de ne pas essayer de les changer, parce que c'est pour toi, ça. C'est pour, tu veux avoir la personne que tu avais avant. Et c'est pas possible. On doit être plus généreux. On doit écouter, pas corriger. S'il parle, par exemple, d'une personne qui est morte il y a 30 ans, faut pas les dire. Non, il est mort ou elle est mort. Il faut parler de cette personne avec eux comme il veut.
Alors, il y a un autre aspect qui est très lié à notre époque et que vous décrivez et que vous racontez dans ce film. Ce sont deux générations, le père et le fils. Ce sont deux générations que tout oppose. Le rôle que vous jouez, celui du fils, est un homme homosexuel qui vit en Californie, qui vit en couple avec une petite fille, ce que son père n'a jamais vraiment accepté. Finalement, ce sont deux Amériques aussi que vous racontez dans ce film.
Oui, je pensais à ça pendant l'écriture du scénario, qu'on pouvait penser à la situation actuelle, de la situation de la famille de Falling. On voit les problèmes de la société si on veut. C'est pas nécessaire, mais on peut voir.
Cette société américaine très divisée, et on l'a vu avec ce qui s'est passé au moment de l'élection présidentielle américaine. Viggo Mortensen, vous êtes à la fois américain, vous êtes né à New York, mais votre père était danois. Quel regard vous portez sur les États-Unis d'aujourd'hui? Vous avez espoir que ces deux Amériques puissent se réconcilier maintenant que Joe Biden s'est installé à la Maison-Blanche?
Oui, ça va aider. Je suis optimiste. Je trouve qu'on peut toujours trouver une façon de mieux se communiquer. Mais ça a été difficile. Ça va prendre longtemps. Je ne sais pas, on va voir. Il essaye, mais il y a beaucoup de polarisation. C'est difficile, c'est très difficile.
Merci beaucoup. Merci Viggo Mortensen d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce matin. Falling, donc ce film Europe 1 qui sort mercredi prochain. Très beau film, très personnel, on l'a compris. Et très touchant, c'est un film labellisé aussi Cannes 2020. Et on le découvrira donc en salle mercredi prochain. Belle journée à vous Viggo Mortensen sur Europe 1 ce matin.
Merci à vous.
Europe 1.
Il est 6h49, l'innovation du jour avec Anissa Mbida.
Europe 1, Sébastien Krebs.
6h51, c'est l'heure de l'innovation du jour. Bonjour Anissa Mbida.
Bonjour Sébastien Krebs.
Votre innovation qui pourrait complètement transformer la menuiserie ou l'ébénisterie. Il s'agit d'une imprimante 3D capable de fabriquer n'importe quel objet, et c'est ça qui est nouveau, en bois.
Oui, une chaise par exemple, une guitare, un objet de déco, vraiment ce que vous voulez, mais fabriqué d'un bloc sans rien avoir ni à visser ni à coller. Vous voyez comment fonctionne une imprimante 3D, hein. On crée un modèle sur ordinateur et on l'imprime en volume, couche par couche, en déposant chaque fois un tout petit peu de matière. En général, on utilisait jusqu'ici du plastique, hein. Mais là, on va s'appuyer sur des déchets de bois, donc de la sciure, des chutes, des branchages. Ensuite, on va les traiter, isoler certains de leurs composants et les réassembler pour reconstituer un vrai morceau de bois de n'importe quelle forme. C'est beaucoup moins cher, moins écologique, et parce qu'on part de déchets.
Oui, c'est un peu comme de l'agglomérer, ça ne doit pas être très qualitatif.
Non, ce n'est pas tout à fait la même chose, parce qu'on n'aura pas du tout l'effet pâte de bois, puisque l'imprimante va reproduire aussi bien le grain, les veines que les yeux du bois. Donc, contrairement à du contreplaqué, par exemple, ben on pourra le couper et poncer l'objet, et il se comportera exactement comme du bois brut. En plus, on est en jouant sur la teinte, sur le grain, on peut reproduire n'importe quelle essence du bois, donc de l'acajou, de l'ébène, du bois de rose. D'ailleurs, on vous a mis des photos sur le hashtag européen. Allez voir, on a vraiment du mal à voir la différence avec un vrai morceau de bois. Alors évidemment, on parle d'une copie, hein, ça ressemble à du bois de rose, par exemple, mais on n'aura jamais les mêmes qualités physiques que du vrai, de l'original.
Du bois massif. C'est pas du bois massif, évidemment. Ça veut dire qu'on ne pourra pas reproduire les poutres en chêne de la charpente de Notre-Dame, par exemple.
Elle serait pas du tout pas aussi résistante que du vrai chêne centenaire. En revanche, pour des meules, pour des objets de déco, ça fonctionnerait très très bien, avec l'avantage de pouvoir leur donner n'importe quelle forme, des formes impossibles à sculpter aujourd'hui. C'est vraiment une super technique développée par la start-up Forust.
L'imprimante 3D qui est capable de fabriquer des objets en bois, désormais. L'innovation du jour. C'est Yannis Mbida. Merci, à demain. Et nous ouvrons à présent la revue de presse internationale avec nos correspondants partout dans le monde. Nous allons d'abord en Argentine. Bonjour Flora Genoux.
Bonjour.
Qu'est-ce qui fait la une de la presse à Buenos Aires ?
C'est un nouvel accord sur le prix de la viande qui entre en vigueur aujourd'hui. Des prix plafonds pour 11 morceaux de bœuf, entrecôte, roast beef, steak haché, précise le site de la télévision privée TNE, qui ajoute que ces morceaux ne seront pas en rayon au rabais le week-end pour éviter les grosses affluences. Il faut savoir que les Argentins doivent faire face à une inflation galopante. Le prix de la viande a augmenté de 65% l'année dernière, indique le site d'information Infobae. Le quotidien Página 12 tient les comptes. Pour ce mois-ci, on estime un volume de 8 millions de kilos de viande à prix doux disponible. Polémique, avertit le média économique e-professionnel qui revient sur les propos du président argentin. Il a critiqué des prix aussi chers qu'en France. C'est faux, conclut le média qui a épluché les prix de plusieurs morceaux. La viande est plus chère en France, écrit-il, même si les Argentins en mangent deux fois plus que les Français.
Flora Genoux, correspondante d'Europe 1 à Buenos Aires. Nous sommes aussi en Espagne ce matin. Bonjour Henri de la Guérie.
Bonjour.
Qu'est-ce qui occupe les médias ? De quoi on parle dans les médias espagnols ?
D'un footballeur français qui change de maillot, Emeric Laporte jouera l'Euro avec l'Espagne, titre Marca, qui n'hésite pas à parler de bombasso, une bombe à un mois du début de la compétition. Selon le journal sportif, le défenseur central de Manchester City, bien connu et très apprécié en Espagne, car il a joué pendant 9 ans à Bilbao, a tapé dans l'œil du sélectionneur Luis Enrique. Hier, le français a été naturalisé à l'issue d'une décision prise en Conseil des ministres à Madrid. S'il a joué avec les équipes jeunes de l'équipe de France, le natif d'Agen n'a jamais évolué sous les ordres de Didier Deschamps. Le règlement de la FIFA lui permet de porter un autre maillot, précise El País. En 2016 déjà, l'Espagne l'avait approché, il n'avait pas donné suite, espérant être convoqué en équipe de France, rappelle Mundo Deportivo. Mais aujourd'hui, à 26 ans, il ne veut plus passer à côté d'une carrière internationale.
Henri de la Guérie à Barcelone pour Europe 1. Et nous terminons à Londres avec vous, Anaïs Cordoba, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui fait les grands titres en Angleterre ?
Eh bien, la presse britannique revient sur le discours de la reine prononcé hier devant le Parlement, qui annonce le programme du gouvernement pour l'année à venir. La reine est apparue toujours aussi forte pour sa première grande cérémonie officielle depuis les funérailles du prince Philippe des Crazy Eyes, qui rappelle que pendant des décennies, elle était accompagnée par son époux lors de cet événement. Cette année, le faste de la cérémonie a été considérablement réduit pour cause de pandémie. Le site de Sky News relève « Pas d'habit d'apparat, mais un simple tailleur de jour pour la reine qui a été conduite au Parlement en limousine au lieu de l'habituel carrosse. Le Daily Mail revient sur une mesure phare du discours, l'octroi de prêts étudiants avantageux pour tout adulte souhaitant se former à n'importe quel moment de sa vie, décryptage du quotidien, une mesure destinée aux régions défavorisées du nord de l'Angleterre où Boris Johnson a acquis de nouveaux électeurs grâce au Brexit.
Merci à vous. Anaïs Cordoba à Londres pour Europe 1.
Europe 1.
Mathieu Béliard s'installe, le 7-9 démarre dans un instant. A tout de suite sur Europe 1.